Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Myriam au micro, une maman malgache vivant à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Elle nous raconte l'organisation très atypique de sa famille mixte recomposée, bercée entre différentes influences culturelles, mais surtout son témoignage en tant que femme noire en Californie, message porté avec beaucoup de sagesse qui, j'espère, va vous plaire. Je vous souhaite une excellente écoute et joyeuse avec la suite. Bonjour Myriam.
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Ah, merci.
Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
D'accord, ben, je m'appelle Myriam Banks. Je suis française et américaine. Je suis née en France, à Cherbourg, Normandie. Et ma famille est de Madagascar. Et je suis à Los Angeles depuis que j'ai 19 ans. Donc, à peu près depuis, je suis arrivée en 1993. Oh, wow. J'ai connu, oui, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà que je suis ici. Donc, j'ai moi, mon mari, mon enfant Kylo et ma belle-fille Maya. Mon D'accord. garçon a 4 ans et ma fille a 9 ans.
Ok. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite... Donc, tu nous as fait un petit background familial. Donc, c'est tes deux parents, c'est ça, qui sont d'originaire de Madagascar et qui sont allés s'installer en Normandie?
Oui. Oui, ils sont, mon papa est de Diego Suarez à Madagascar, ma maman est d'une petite île au nord-ouest de Madagascar qui s'appelle Nosibé. Ils se sont rencontrés à Nosibé et mon papa est rentré dans l'armée française parce que c'était Madagascar était une colonie française. Et ils sont arrivés en France, à Cherbourg, par rapport à l'armée.
Ok, et ta mère est retournée à Madagascar, c'est ça?
Ma maman est retournée il y a 2 ans. Elle est retournée à Madagascar. Elle a pris sa retraite et elle est retournée à Madagascar.
Bah, elle
et
a bien raison.
Est... Oh ah. oui, elle est bien.
Elle a tronqué la vache et la pluie pour le soleil quand même. Ça va quoi.
Ah oui, c'était une des raisons pour laquelle elle voulait. Elle fait oh les mon arthrose, il y a trop d'arthrose en France, donc elle est retournée à Madagascar.
Bah, elle a bien raison.
Ah oui, là elle s'amuse très bien là.
Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à Los Angeles?
Oh, ben dans les débuts des années 90, j'étais avec mon ex-boyfriend, mon ancien petit ami, et donc il venait ici à Los Angeles. Enfin, il avait deux propositions, une en Norvège, à Oslo, et une à Los Angeles. Donc, bien sûr, on a choisi le soleil.
Oui, ça va
être ça. Oh oui, on a choisi le soleil. Et on est resté là, on est resté ensemble pendant 11 ans. J'ai complètement accroché à Los Angeles, la vie à Los Angeles, le soleil à Los Angeles, les possibilités au niveau du travail. C'était vraiment le rêve, quoi, à l'époque, pour moi.
Oui, et donc j'imagine que la vie suit son cours, que ça se finit avec cet homme. À quel moment tu rencontres ton conjoint?
Oh, j'ai rencontré mon conjoint 10 ans après. Donc, je l'ai rencontré à 38 ans. Pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui sont célibataires, it's worth the wait,
Oui. Ça vaut le coup d'attendre.
Ça vaut le coup d'attendre. Donc, on s'est rencontrés, j'avais 38 ans, et on s'est rencontrés online. Et c'était ma maman qui m'a dit, tu sais, tu devrais faire le truc online. J'ai vu sur l'Internet. Je dis, oh maman, tu sais, je suis pas trop Internet et trouver les hommes par l'Internet. Et je voulais retourner en France à l'époque. Parce que je me suis dit, oh, ça y est, j'ai tout fait ce que je voulais aux États-Unis, au niveau de ma carrière. Donc, maintenant, je voulais retourner à Madagascar. Et l'avenir avait d'autres...
Ouais, d'autres raisons pour toi.
D'autres, voilà, j'ai rencontré mon mari et au bout de 8 mois, on s'est mariés.
Oh, et alors, c'est quoi son background culturel à lui?
Il vient d'Angleterre.
Oh, un petit British.
Donc, son papa, voilà. Donc son papa et sa maman sont anglais et lui, il a immigré à Los Angeles en 1980.
Et il avait déjà une petite fille, c'est ça?
Voilà, il avait déjà une petite fille, Maya. Donc quand je l'ai rencontrée, Maya avait 18 mois
Ouais.
et c'était I fell in love with him. Je
Ouais.
suis tombée amoureuse complètement du papa et de Maya. Et pour moi, à l'époque, à 38 ans, je n'étais pas vraiment une femme qui était, oh, j'aimerais bien avoir des enfants. C'était pas dans ma,
Oui, c'était pas dans ta bucket list, c'est ça?
voilà, c'était pas mon bucket list. Mon bucket list, c'était de voyager et de continuer mon travail. Et j'avais pas vraiment d'attirance vers être maternelle. Mais dès que j'ai rencontré Maya, elle a complètement détruit tous les murs que j'avais autour de mon cœur au niveau de
Oh.
motherhood. Et c'était magique pour moi, quoi. Même
Ouais.
jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille.
Oui, alors qu'est-ce que ça fait de devenir une stepmom quand tu viens juste de rencontrer le papa parce qu'à 18 mois, il commence un tout petit peu à percuter leur environnement?
Ce qui était le plus important pour moi, c'est d'avoir une bonne relation avec sa maman.
Ouais.
Même si au niveau de la relation avec la maman de Maya et mon mari, c'était très superficiel, ils n'étaient pas mariés ou quoi. Et tous les quatre, parce que maintenant Maya a un beau papa, tous les quatre, on est très. Pour nous, c'est tellement important de mettre le well-being de Maya en premier.
Oui.
On a tous des personnalités différentes et je crois que c'est aussi la beauté d'être une famille recomposée.
C'est génial. Et alors attends, la mère de Maya, elle est de quelle origine? Parce que bon, qu'on se le dise, Los Angeles, c'est quand même un melting pot culturel au même titre que New York.
Elle vient du Mexique.
Ah oui, c'est un super beau mélange.
Oui, donc du coup, Maya est composée mexicaine et anglaise, et son beau-papa, eux aussi, vient du Mexique. Elle a la culture latino, en fait, du côté de sa maman, et de notre côté, bon, elle a un petit peu plus la culture malgache mélangée avec du français, et un petit peu de l'Angleterre, mais mon mari n'est pas trop au niveau du culture anglaise, il n'est pas vraiment de ce côté-là. Mais
Ouais.
elle a vraiment un melting pot de toutes ces cultures et c'est ça qui fait la beauté de Maya aussi d'un certain côté. Donc
Oui, c'est génial. À quel moment vous décidez avec ton mari d'étendre la famille?
Donc vu qu'on s'est marié au bout de 8 mois, je crois que c'était un déclic où je me suis dit, vu comment mon mari il est un père merveilleux. Je me suis dit, et comment ça serait si on en avait un? Parce que quand tu as une fille et que par exemple, si elle est malade le week-end et que tu t'occupes d'elle tout le week-end et après tu dois la redonner, tu as l'impression que tu n'as pas au niveau de ton motherhood, c'est unfinished. Tout n'est pas fini complètement au niveau de comment tu ressens, ce que tu ressens avec l'enfant.
Ouais.
Donc, je me suis dit, peut-être que ce serait une bonne idée d'en avoir un. Et
Oh.
mon mari ne m'a jamais poussé ou quoi. Il m'a toujours laissé le choix. Et puis, je crois que c'était le jour où il y a eu un déclic où Maya m'a demandé, et tu sais, ma maman, elle a eu mon frère et j'aimerais bien maintenant avoir aussi un frère ici avec vous.
Ouais.
Et c'est là que j'ai eu le déclic où je lui ai dit, oh, tu sais, toi, t'es ma fille, c'est vraiment assez pour moi. Mais c'est là que j'ai eu le déclic de, ah, peut-être qu'elle aimerait bien avoir un petit
Oui,
frère
un
ou une
petit
petite
sibling.
sœur ou
Ouais.
voilà. On s'est mariés en 2013, donc c'était 2 ans après qu'on a essayé et on a eu le petit Kylo qui est arrivé.
D'accord. Et alors Maya, comment elle a accueilli la nouvelle d'avoir un petit demi-frère?
Ben, quand on l'a eu, comme sa maman était aussi enceinte en même temps de sa petite sœur,
Ah,
donc
trop
pour elle,
drôle.
c'était
Ouais.
oui, c'était on est Kylo et la sœur de Maya ont 2 mois d'écart.
Ah oui. Ah, donc vous avez partagé votre grossesse en plus ensemble.
Oh,
Trop
voilà.
drôle.
Donc du coup, Maya, pour elle, ça, même jusqu'à aujourd'hui, Maya, elle attend toujours un autre. Hein. Elle a dit, ah, j'aimerais bien avoir 2 sœurs et un autre frère. Elle en veut 3 autres. Je dis, oh là là, faut pas regarder mon côté. Mais elle est ouverte. Elle fait, mais même si tu l'as pas de toi, on peut quand même adopter. Hein, on peut
Elle est
adopter.
trop
Hein.
drôle. Au final, elle a quoi? Elle a deux frères d'un, enfin deux siblings d'un côté et un de l'autre. Enfin, ils sont quand même une
Voilà,
fratée de
elle
quatre,
en.
quoi.
Oui, et elle était. Oh, au début, je me suis dit, oh, ils ont quand même 5 ans de différence d'âge, ça va être peut-être un petit peu trop, mais c'est parfait. C'est
Oui.
vraiment parfait parce qu'elle m'aidait, elle changeait les couches, elle
Oh.
lui donnait le biberon, elle est très, très maternelle. Donc, ça s'est énormément bien passé. Jusqu'à maintenant, Kylo et Maya, ils sont inséparables, quoi.
Oh. Et alors, donc, la langue que vous avez mise en place dans la famille, donc, c'est tu parles à Kylo en français, ton mari, tu lui parles en
Oui,
anglais, et Maya, tu lui parles en français-anglais, c'est ça?
Oui, français-anglais, mais plutôt anglais avec Maya, parce que c'est souvent avec son frère qui est à côté. Ben pour Kylo, quand il est né, je lui parlais qu'en français. Ça, c'était. Et aussi, au bout, quand il a eu. Je crois que c'était quand il avait 9 mois, on a eu des au pair qui venaient de France. Donc, il entendait souvent le français, que ce soit avec ça. Avec moi et avec sa mamie. Ça a changé un petit peu quand il est rentré en preschool,
Oui.
où il comprend le français, mais il a du mal à me répondre. Donc, du coup, souvent, je lui dis, ah, je comprends pas. Et puis, il essaie de parler en français. Et puis, comme l'année dernière, à cause de ce qui se passe dans le monde, on n'a pas pu rentrer en
Oui.
France. Donc, je crois que ça a un petit peu reculé son français. Mais c'est vrai que quand on rentre en France pendant l'été et qu'il est avec ses cousins qui parlent que français, des enfants avec lui,
Oui.
c'est au bout
Il
d'une
reprend un
semaine,
peu. Ouais,
il
c'est acté.
reprend.
Bon, mais c'est cool. Et alors, comment vous partagez la garde de Maya avec sa mère? Est-ce qu'elle fait une semaine chez vous, une semaine chez elle?
Quand j'ai rencontré mon mari, il avait Maya 2 après-midi par semaine.
Ok.
Après ça, quand elle a eu 2 ans, parce que c'était important pour mon mari, il voulait vraiment que sa fille et sa mère soient vraiment ensemble pour la première année, juste parce qu'il disait, je voulais pas tout le temps la déchirer de sa maman, parce que c'est
Oui.
important qu'elle soit avec sa maman.
Ça doit
Et
être dur
après
pour
ça, elle
lui,
venait.
j'imagine, en plus comme choix.
Oh oui, parce qu'il voulait vraiment, vraiment avoir un enfant. Mais aussi, il comprend énormément le fait que mon mari, il prend Parenthood très sérieusement. Sur le côté de son lit, il y a au moins 3 ou 4 bouquins au niveau de Parenthood. La psychologie de l'enfant.
C'est trop
il est, il est
bien.
très... Ah oui, même pour moi, des fois, je suis
C'est
là.
trop.
Moi, j'utilise mon intuition plus que, mais lui, il fait, tu sais, à 5 ans, leur cerveau, il devient comme ça et comme ça. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a des tantrums. Donc, il est vraiment, il adore être papa. Du coup, il a préféré changer sa vie pour pouvoir être présent avec ses enfants.
Ouais.
Et pour lui, c'est important d'être un papa présent. Et c'est aussi important pour lui que nous, en tant que parents, on a énormément de self-care, quoi.
Oui.
Que moi, que lui, il prend des vacances seul, moi, je prends des vacances seul, qu'on prenne des vacances ensemble, sans nos enfants et avec nos enfants. Mais pour l'instant, on a Maya 1 semaine, 5 jours, et après sa maman, 1 semaine et demie.
Ok. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui Maya elle considère Kylo comme son frère? Enfin, je veux dire, il n'y a pas
Oui,
de...
avec Maya, on n'a jamais vraiment essayé de définir ce que notre famille était, parce que pour
Oui.
nous, on veut que pour elle, ce soit le normal. Donc, on n'a jamais dit, OK, elle a demandé souvent, elle a eu une question, je crois que c'était à peu près il y a un an, pour savoir qui sont ses parents qui étaient ses parents, quoi, dont mon mari oui. et sa maman. Mais après ça, elle a dit, mais j'ai toujours, elle m'appelle Mimi. Elle mm-hmm. fait, mais Mimi, t'es toujours ma maman. Je suis bien sûr. Même si j'étais pas dans ton ventre, je suis bien sûr. Et papy, son père, oui. du côté de sa maman, papy, c'est toujours mon papa. Je dis, oui, bien sûr. Même si, il m'a pas fait avec maman. Je fais, oui, bien sûr. Elle fait, OK. Et après, elle a jamais reposé la question.
C'est marrant comme leur cerveau doivent juste, tu vois, c'est très pragmatique, quoi.
Mm-hmm. Et souvent, c'est nous en tant qu'adultes qui faisons toutes ces assimilations ouais. de oh, peut-être qu'elle va peut-être penser que oh, peut-être c'est pas trop. Non, pour eux, c'est ok, c'est noir ou c'est blanc. Du moment qu'elle a l'amour de tout le monde, et je le vois aussi quand elle est avec deux enfants, elle dit oh, attends, je vais demander à ma maman. Et elle part de moi, même si je suis pas sa maman biologique. Mais pour elle, ouais. Elle me connaît depuis qu'elle a un an et demi. Elle ne fait pas la référence, ok, non, c'est pas vraiment ma maman, ou techniquement, c'est pas ma maman. Pour elle, elle a deux mamans et deux papas. Donc, oui. elle parle aux gens, elle dit, oh oui, ça, c'est ma maman et mon papa. Et quand elle est avec sa maman et son beau-père, elle dit que c'est sa maman et son papa. Même des fois, avec son beau-père, je dis, je parle et je dis, ah oui, les parents de Maya, son papa et sa maman. Même si je sais que c'est pas vraiment son père,
oui.
ou bien techniquement, on essaie de pas faire de différence pour qu'elle sente qu'elle est aimée de partout.
Oui, et puis c'est l'essentiel.
Voilà. Mais bien sûr, par exemple, si pour son anniversaire, par exemple, si on est toute la famille ensemble, y a quelque chose en moi, mais ça c'est moi, qui me dit si par exemple il y a quelque chose que Maya fait quelque chose, c'est sa maman qui aura la priorité. Oui. Au niveau aussi, il y a quelque chose à dire, ou s'il y a de la discipline à faire, ou quoi que ce soit, ça sera maman. Moi, je me reculerai juste un petit peu, tu vois. Mais juste, c'est surtout par respect pour elle, parce que bon, c'est sa maman biologique. Donc, même si Maya fait pas la différence, mais moi, si on est tous ensemble, je laisserai la priorité à sa maman. S'il y a quelque chose à dire, ou si Maya fait quelque chose.
Ouais, c'est vrai que c'est un bon point, parce que comment vous faites si vous n'êtes pas d'accord sur, je sais pas, un petit truc, si l'un pourrait être un petit peu plus sévère que l'autre, par exemple?
Oui, ben, pour nous, ça c'est, par exemple, si quand on est tous ensemble, on essaye d'être beaucoup plus ouvert avec Maya, quand on est tous ensemble, parce que c'est un moment tellement spécial pour elle, quand on est tous ensemble. Donc, on essaie de la... Mais si, par exemple, elle est à la maison et que nous, on est beaucoup plus relax, tu vois. Donc, si, par exemple, elle dit « Ah, Mimi, aujourd'hui, j'aimerais bien... est-ce qu'on peut se teindre les cheveux en rose ?» ou comme ça. Et ou bien si elle dit quelque chose, elle fait « Oh, tu sais, moi, chez maman, j'ai pas le droit de faire ça. » Et on dit « Oui, chez maman, tu peux pas. » Et ça, c'est important que chez maman, tu peux pas. Mais ici... T'es pas obligé d'aller au lit à 8h, tu peux aller au lit à 8h30. Donc, on essaie de respecter ce qui se passe dans l'autre maison, tout en faisant nos règles ici chez nous.
Ouais.
Comme ça, elle sait que, ok, chez maman, j'ai pas le droit de faire ça, et j'aurai jamais le droit de faire ça chez maman, mais chez papa, j'aurai le droit de faire ça un peu plus ou un peu moins, ou peu importe. Donc, c'est sûr que chez nous, c'est un petit peu plus relax parce qu'on l'a moins aussi. Comme on l'a que 5 jours par toutes les semaines et demie, on l'a 5. Ouais. Voilà, donc du coup, on essaie d'être un peu plus relax avec elle. On fait énormément de choses ensemble, mais tout en faisant, tout en lui disant, oui, c'est vrai que chez maman, tu n'as peut-être pas le droit, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien chez maman. C'est les règles de maman qui sont comme ça. Ici, c'est des règles différentes. Il y aura des règles plus sévères ici dans certains trucs. Par exemple, pour manger, ce sera plus sévère parce que moi...
J'en étais sûre que la table, ça allait arriver. Quand tu vois les... Ouais, je voyais bien le truc arriver, mais alors gros...
Ça, c'est mon truc. En plus, mon mari, il est anglais, donc il est un peu, ah, on peut manger en tant que buffet, ou on peut. Non, 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 non. Ça, c'est mon truc. Je lui ai toujours dit, moi, être à table tous ensemble, en famille,
Pas
de
valeur,
télé,
hein.
pas de. C'est très important parce que c'est notre moment à nous.
C'est marrant, hein. Ça, c'est l'influence française, mais à 100%. Ici, j'ai l'impression qu'ils valuent moins le côté, tu vois, quand tu fais un déjeuner, c'est le déjeuner, tu manges sur le pouce. Alors
oui.
Qu'en France, c'est non. D'ailleurs, j'explique toujours à mon mari, non, non, mais je t'explique, il y a l'entrée, ensuite, il y a le plat, ensuite, il y a le dessert, il y a le fromage, et après, il y a le dessert. Mais c'est marrant, c'est une institution chez nous. Hein. Enfin, je veux dire, la nourriture et être à table et partager un moment, c'est une valeur ancrée chez nous, quoi. Non, c'est clair.
Et c'est tellement important parce que moi, je vois quand je reviens en France, surtout maintenant que je suis adulte, je reviens en France, j'apprécie qu'on est tous ensemble à table et qu'on partage l'apéritif, on partage des moments qui sont inoubliables, quoi. Je me souviens les premières fois que j'ai amené mes beaux-parents dîner chez ma famille, mais ils n'en revenaient pas parce que ça fait 3 heures qu'on est à table. Je dis, bah oui, mais ils ont vraiment adoré le moment, quoi. Je me souviens, mon beau-père, on avait à la fin, il y avait une bouteille de champagne. Il a gardé jusqu'aujourd'hui le bouchon de champagne. Il a demandé à tout le monde de signer quelque chose de mettre quelque chose sur le bouchon de champagne parce qu'il a vraiment, et c'est important, quoi. Parce que plus tard, je me souviens des moments avec ma famille où mon frère avait fait ça, ou ma maman qui avait fait ce phare breton parce qu'on a vécu à Brest aussi, et les kouign-amann et les crêpes bretonnes. Je me souviens, ça, c'était beau. Parce que sinon, aussi, ça apporte un respect pour la nourriture à l'enfant.
Oui, c'est vrai.
Il faut leur montrer qu'il y a une beauté et il y a une valeur derrière ce qu'ils mangent.
Ouais.
Et pas simplement juste, je mange juste parce que pour manger, quoi. Non, c'est important.
C'est un art, hein. Enfin, bref, c'était notre petit aparté culinaire.
Voilà.
Et fierté.
Très fière.
Alors, j'imagine, étant donné que, voilà, ça fait quand même plusieurs années que tu es aux États-Unis et que j'ai pas mal de personnes, mine de rien, qui me font la demande d'obtenir, en fait, un petit peu plus de diversité dans le podcast. Et notamment, après les 4 dernières années qu'on s'est tapées avec le clown, je sais qu'il y a des familles, en tout cas, de diverses origines qui me demandent, par exemple, en message direct sur les réseaux sociaux, à quoi ressemble la vie aux États-Unis en tant que personne noire. Oui, c'est vraiment marrant que tu me dises ça, personne de couleur, parce que si tu traduis, par exemple, personne de couleur en anglais, c'est très, très, très négatif.
Très négatif.
Ouais, quand tu dis a colored person, c'est pas bien
du
tout.
Parce qu'il y a une connotation qui est pour l'Africain-Américain, c'est tellement profond au niveau de leur DNA par rapport à l'esclavage, et c'est pas si loin que ça.
Pas du tout.
Bon, cette année, il y a beaucoup de choses qui ont été épluchées et mises à vif.
Oui.
Et c'est sûr que ça a été, vu que je suis arrivée ici, j'avais 19 ans, j'en ai 46 maintenant. J'ai vécu plus de temps aux États-Unis que j'ai vécu en France.
Oui.
Donc, en tant que personne, en tant que femme noire aux États-Unis, j'ai voyagé dans quelques États aux États-Unis, vécu tous mes 27 ans en Californie. Et à Los Angeles. Et c'est vrai que je peux parler simplement que la Californie, parce que on est quand même assez dans une bulle en Californie par rapport au reste des États-Unis. Le racisme est partout. Et c'est vrai que c'est partout dans le monde. Je veux dire, mes frères habitent à Paris. C'est pas comme s'ils n'ont pas eu leur petite expérience au niveau du racisme aussi à Paris.
Oui.
Même si tous les deux ont très bien réussi leur vie professionnelle.
Mais alors, comment tu comparerais, par exemple, le racisme, parce que moi je trouve que pour le coup, le racisme en France est extrêmement vulgarisé et normalisé, je dirais. Parfois j'entends des choses, notamment pour les communautés asiatiques, où je me dis, tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça aux gens, quoi. Enfin, et tu vois, de prendre par exemple pour partie que chaque personne asiatique est un Chinois, ça c'est un truc qui me met hors de moi quand je rentre en France, très clairement. Et voilà, est-ce que tu arriverais, toi, à comparer. Culturellement, tout du moins, tu vois.
Comme j'ai pas tant que ça passé de temps en France depuis que j'ai 19 ans, ouais. Mais je vois les fois où j'étais en France, c'est moins. Je vois que c'est un petit peu plus vulgaire. Ici, c'est un petit peu du micro-racisme. Ils vont pas te le dire en face, mais ils vont bien te faire comprendre que tu n'es pas invité.
Ouais.
Mais en France, c'est.
C'est
les mots qui te
disent.
Ouais. Et tu dis, mais ça, c'est un peu raciste. Mais non, mais j'ai droit de dire ce que je veux. Et c'est un petit peu le manque d'empathie. Je ne sais pas si ça se dit en français.
Oui, oui, non.
Le manque d'empathie qui est un peu. Voilà, un peu moins d'empathie en France. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement passé de temps que ça en France, donc je peux pas dire c'est comme ça partout. Et quand j'étais en France, j'étais que à Paris ou à Brest ou à Toulon, donc j'étais pas vraiment dans tous les coins de France.
Oui.
Et en plus ici, surtout que pour moi, à chaque fois que j'ai eu un problème au niveau du racisme, c'était jamais avec des Américains d'Amérique.
Tu veux dire c'était avec qui?
Des Iraniens ou bien des fois des Africains américains qui étaient racistes parce que mon mari est blanc ou bien j'ai eu Taïwanais donc du coup c'était pas blancs des États-Unis avec qui ça m'est arrivé à moi, donc le fait que tout le monde mais cet truc raciste avec les rednecks et les gens qui ont pris le Capitole, mon expérience à moi n'était pas avec ces personnes-là.
Mais après, ils ne sont pas trop représentés non plus en Californie. Enfin,
non, ils sont vraiment...
Ou alors, ils se cachent bien pour le moment, mais...
Ils se cachent bien.
Oui, donc, tu n'as pas eu de problème avec un Américain, comme on dirait, cliché, quoi.
Voilà. Et je voudrais aussi rajouter un truc, c'est que ici, les gens, ils voient vraiment quand ils me voient, c'est vrai qu'il y a une différence entre un Africain-Américain ou une Africaine-Américaine et moi qui est français, qui vient de France, qui est malgache, qui vient de France. J'ai pas les mêmes mannerisms, j'ai pas les mêmes manières, j'ai pas les mêmes façons de m'habiller, j'ai pas la même façon de.
Oui, t'as pas les mêmes codes.
Tout mon style est complètement différent. Donc, quand les gens ils m'approchent, même si j'ai pas vraiment l'accent profond américain, ils voient tout de suite, tu viens pas d'ici, est-ce que t'es africaine, est-ce que t'es éthiopienne, est-ce que t'es jamaïcaine, est-ce que t'es. Ils arrivent pas vraiment à me catégoriser quelque part. Après, quand ils voient que je suis française, tout de suite, oh Paris, machin, nanana, tout de suite, ça radoucit énormément les conversations dès qu'ils savent que je viens de France ou que je ne suis pas africaine-américaine.
Oui, il y a un truc que j'ai noté aux US que je trouve vraiment intéressant, c'est que autant en France, on va vite aller te pointer, toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es arabe, toi t'es... enfin, ils diront même pas t'es asiatique, ils diront t'es jaune, bref. Mm-hmm. Alors qu'ici, je trouve qu'ils ont une démarche un petit peu plus localisation. Tu vois, c'est genre, toi, tu es caucasien, toi, tu es Asian, toi, tu es Native American, toi, tu es Afro-American. Et je trouve que le descriptif, en tout cas, donc par exemple, quand je dois dire maintenant en français quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est blanc, ça me met extrêmement mal à l'aise parce que j'ai l'impression que ça fait plus partie de mon code cérébral. Oui. Par exemple, un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que quand tu as différentes personnes dans une pièce et qu'il y a un melting pot culturel, un Français va te dire bah, c'est le Renoir qui est là-bas, tu vois. Alors qu'un Américain va plus te dire bah, c'est, ils vont essayer de te décrire la personne sans nécessairement te décrire directement la couleur de peau. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je trouve mais absolument génial aux États-Unis. C'est que genre, tu prends vraiment quelqu'un dans son ensemble, juste. Tu la définis pas juste par sa couleur de peau.
Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr que ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé aux États-Unis. C'est que, bien sûr, j'ai jamais eu de porte fermée juste par rapport à ma couleur de peau. Mais quand les gens te rencontrent, j'ai jamais l'impression qu'il y a un blocage directement ou qui te voit juste par rapport à ta couleur. Plus maintenant, encore plus maintenant, mais par exemple dans l'école de mon fils ou dans sa classe, il y a qu'un élève qui est blanc. Ou mais personne ne dira oh c'est un tel. Surtout à Los Angeles parce qu'il y a tellement de couleurs, il y a tellement de différentes cultures, il y a tellement de différents. Tout le monde vient de partout à Los Angeles.
Ouais.
Donc les gens sont forcés vraiment à te regarder par rapport à ce que tu fais, souvent ta profession ou d'où tu viens. Donc, ça ouvre beaucoup plus de conversations au niveau culturel aussi, quoi. Donc, c'est et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne ressens pas en France. Ça, c'est sûr.
Mais oui, j'ai l'impression que tu vas directement être catalogué par ta couleur de peau, quoi. Et je trouve que c'est un peu limité en tout cas, tu vois.
Oui, et c'est dommage parce que je vois surtout à Paris, il y a énormément de métis, il y a énormément donc il va falloir qu'on s'adapte parce que la prochaine génération est métisse.
Oui, mais de base, la France n'a jamais été blanche. Je suis désolée de le rappeler, mais tu vois, ils sont contents de dire on a colonisé telle et telle île ou tel et tel pays. Bah oui, bah justement, si t'es fière de tes anciennes colonies ou whatever, tes colonies, elles sont pas blanches, hein.
Ouais, même jusqu'à maintenant, mon petit frère est né à Tahiti, c'est une colonie française. Madagascar, c'était une colonie française. Et Madagascar est composé de. J'ai fait par exemple, j'ai fait mon DNA test. J'ai 28% Chinese en moi, Asian, 28% Asian dans mon DNA, et de mon DNA, j'ai 22% qui est Chinese. Et ma famille vient de Madagascar, juste par rapport au commerce qui va en Chine. Il y a beaucoup de Malaisian, Mozambique, d'Afrique.
Je crois qu'il y avait des Chinois. Indonésiens, non?
Indonésie. Il y a énormément de mix à Madagascar. Donc, j'ai des cousins qui sont clairs de peau, j'ai des cousines qui sont plus foncées que moi. Et c'était français. Ils sont tous. On est revenus en France, ou il y en a qui sont restés. Et de base, on est tous un melting pot. Et la nouvelle génération, plus ça va, plus on est mixé. Donc, le monde va devoir s'adapter au fait que nous allons tous être mixés, arriver à un moment. Parce que le monde devient de plus en plus petit. Mes parents, ils ont immigré en France. Moi, j'ai immigré aux États-Unis. Mon fils, il ira immigrer peut-être en Chine. Tout ça, c'est pour ça que moi, d'un certain côté, je suis beaucoup plus optimiste au niveau du racisme. Le plus on a l'optimisme à l'intérieur de ce qui va se passer pour les prochaines générations, le plus je me dis, c'est vraiment localiser le racisme ou les gens, ou le voisin qui a les drapeaux, ou tout ça, ça va pas être la réalité de mes enfants. Et ça va pas être la réalité de mes grands-enfants, de mes petits-enfants.
Oui.
Parce que ça va être tellement diversifié partout dans le monde. Et je vois maintenant avec le BLM Movement, avec tout ce qui se passe en France, tout change. Oui. C'est quand je vois des adolescents ou des enfants qui ont 5 ou 8 ans qui marchent pour le climate change. Nous, on n'a pas marché pour le climate change. Nos parents n'ont pas marché pour le climate change. Mais ça arrive. Cette génération veut du changement. La nouvelle génération veut.
Mais en tant que mère, est-ce que tu trouves que, par exemple, avec Kylo, tu l'éduques d'une manière différente parce qu'il est un petit garçon métis, par exemple?
Absolument, oui. Je l'éduque différemment. Ça, c'était le jour où on a su qu'on avait un garçon. Mon mari, pour lui, c'est « je vais élever un enfant noir aux États-Unis, un garçon noir aux États-Unis ». On a toujours mis de l'avant le fait qu'il était noir d'abord. On a des affirmations qu'on fait avec nos enfants tous les soirs. On leur dit « oui, tu es fort, tu es beau et tu es courageux ». Et à la fin, mon mari dit toujours « et tu es un strong black man ». Et mon petit, pour lui, il est noir d'abord. Et une des raisons pour laquelle, c'est parce que il est né dans le Trump era. Donc, on s'est dit, vaut mieux qu'il soit sûr de ce qu'il est, quoi. Mais en tant que mère, avoir un garçon qui est métisse, c'est pas la même chose qu'avoir une fille qui est métisse.
Pourquoi tu dis ça? Tu veux dire, c'est plus de pression ou c'est moins de pression?
C'est un peu plus de pression. Il y a toujours ce poids derrière être masculin et noir. Il y a un poids. La femme noire a un poids, mais c'est complètement différent.
C'est pas le même. C'est différent.
Un homme noir est plus un threat qu'une femme noire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois une petite fille noire et un petit garçon noir, c'est cute. Mais dès qu'il commence à devenir adolescent, un adolescent masculin noir, ça devient un threat.
Oui, quand tu lui mets un hoodie, c'est ça?
Voilà, tu lui mets un hoodie, tu lui mets un truc.
Un sweat maintenant, à capuche.
Voilà, un sweat. Un sweat à capuche, tu le regardes pas de la même façon si tu vois une femme noire. Une femme noire a toujours été regardée en tant que moins que. Un homme noir, c'est oh, attention. Ma fille, j'essaie de toujours de lui montrer que you are worthy, tu mérites, tu es fort, tu es intelligent, tu es pour lui remonter son self-esteem.
Oui.
Parce qu'en grandissant en tant que femme noire, à l'âge de 4 ans, nos parents nous ont dit, tu devrais être plus forte, plus intelligente, tu dois mieux travailler à l'école, tu dois courir plus vite, tu dois nanana. Et juste parce que t'es noir. Même si tu es tout ça, tu seras toujours regardé en moins que.
Ouais.
Je ne connais aucun parent blanc qui a cette conversation avec un enfant de 4 ans ou de 5 ans. Et c'est une conversation que je n'aurai jamais avec mes enfants. Jamais. Parce que pour moi, ils sont pareils. Mais parce que j'ai eu ça dans mon éducation, je rajoute encore plus sur mes enfants. Je leur rajoute plus qu'ils sont beaux, qu'ils sont aimés, qu'ils sont worthy, je sais pas comment on dit worthy en français, qu'ils ont de la valeur.
Oui.
Et ma fille, c'est pareil, hein. Je veux dire, en tant que à moitié mexicaine, la valeur d'une femme blanche, la valeur d'une femme mexicaine et la valeur d'une femme noire, ça se voit. La femme est tellement rabaissée tout le temps, que ce soit blanc, en femme en général. En plus, si tu rajoutes de la couleur dessus, t'es encore plus rabaissée.
Ouais. Mm-hmm. Après, nous, on regarde pour notre petit garçon et c'est vrai qu'on en parlait encore hier à table avec mon mari à se dire, bon, comment on peut apporter de la compassion, tu vois, dans l'éducation que tu as avec tes enfants, parce que nous, on est blancs, les deux. Enfin, je veux dire, et on n'aura jamais les mêmes problématiques que quelqu'un d'une autre couleur. Mais c'est simplement de se dire, OK, bah, nous, on apporte ces enfants dans ce monde-là. Comment on peut leur apporter de la compassion par rapport aux gens qui n'auront pas les mêmes facilités parce qu'ils ne sont pas blancs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment à travers de la compassion, des exemples, leur expliquer ce que la société fait à d'autres petits garçons et d'autres petites filles, quoi, et qui ne sont pas normales.
Mais aussi, il faut voir que tout se passe à travers les parents. Rien que le fait que pour toi, pour ton podcast, c'est important d'avoir la diversité. Ça, tes enfants, tout reste sur l'internet. Il va le voir ça un jour, ton petit garçon et ta petite fille. Ils vont voir, ah, maman, elle a eu ça qui se passait. Et le fait que tu en parles, le fait que c'est important. Il y a aussi d'autres trucs. Moi, j'essaie toujours au niveau des bouquins d'avoir quelque chose où il y a un peu plus de diversité dans les bouquins, parce que souvent c'est ou dans les jeux qu'on a. Maya, quand elle était toute petite, même avant que je la connaisse, elle avait des poupées noires. Et à chaque fois qu'elle voulait une poupée, elle voulait toujours une poupée noire. Pour elle, elle connaissait pas encore tout ce qui était couleur, elle avait qu'un an et demi. Mais c'était normal pour elle. C'est quand nous, en tant que parents, on est inconfortable, et souvent quand on est inconfortable ou qu'on ne sait pas, on préfère éviter. Mais au contraire, quand on ne connaît pas,
non, il faut s'éduquer. Mieux.
Ouais. Il faut s'éduquer. Pas simplement s'éduquer, mais aussi avoir des références physiques. Par exemple, OK, nous, on habite à Culver City, c'est très divers. Mais si, par exemple, j'habitais dans une ville qui était un petit peu plus moins diverse, je ferais 1 ou 2 kilomètres de plus pour que mon fils soit dans une équipe de football qui soit plus diverse.
Ou
je sois sûre que l'école où mon fils est, ce soit divers. Même si c'est la meilleure école de ma ville. Mais si c'est pas assez divers, ou même si j'ai vraiment envie qu'elle soit dans cette école, j'en parle. Je vais voir le directeur, je vais vous savez quoi. Je vois que personne dans votre staff est de couleur. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est quelque chose que... Et c'est souvent comme ça que les gens se disent, bon,
il y a un titre.
Il y a un titre. Ah oui, c'est vrai, il n'y a personne à part les gens qui font le ménage dans l'école. Ou bien être sûr que votre entourage soit divers. Que ce soit divers de couleur, que ce soit divers sexuellement, que ce soit divers. Comme ça, pour l'enfant, ça devient normal. Ce n'est pas une discussion, c'est juste normal. Il le voit. Il voit dans l'école, il le voit autour de vos amis, il le voit dans son équipe de football. Parce que souvent, en parler, c'est bien, mais l'enfant, quand il voit et qu'il... Parce que je le vois avec Maya, il y a beaucoup de familles qui sont recomposées, qui me disent comment ça se fait que vous arrivez à le faire. C'est parce que pour nous, c'est normal pour Maya maintenant. C'est normal d'avoir deux mamans et deux papas. C'est normal parce que on a créé cet univers autour de l'enfant. Si vous créez pas l'univers divers autour de l'enfant, il va pas le trouver dans les conversations. Il va le trouver dans son environnement. Ça, c'est ce que je dirais à des familles qui aimeraient bien s'éduquer ou parce que souvent les gens ils ne savent pas, ils ont jamais été devant la chose. Donc tout d'un coup, maintenant il y a eu le BLM et tout le monde était très sensible. Et pour moi, j'ai invité les gens à poser des questions parce que si tu sais pas, tu vas dire des bêtises, tu vas peut-être pas donner la bonne réponse et que tu vas offend, tu vas créer un petit peu de tension, offenser quelqu'un. Mais moi, si quelqu'un m'offense, c'est parce qu'ils ne savent pas.
Oui, c'est l'ignorance qui.
Voilà, il faut juste les inviter à voir. Et moi, c'est ce que je faisais quand j'ai eu mon client qui voulait pas que je sois un des meetings. Peut-être la première fois ça a été comme ça, mais après on est devenu jusqu'à maintenant on est toujours amis. Parce que si moi du coup je me suis tout de suite braquée, me dire ah il est raciste donc je vais avoir un conflit avec lui, non au contraire, Breathe, respire, et après, essaie de l'éduquer, pas simplement lui dire, mais de lui montrer, écoute, toi et moi, si par exemple, il y a un accident et que tu as besoin d'une transfusion sanguine,
tu n'auras pas
la couleur de la peau. Hein.
Ouais, non, c'est clair.
C'est pareil. Hein. C'est une éducation à faire parce que souvent, on a tellement été éduqués à ne rien dire ou ne dis rien, ne parle pas trop fort. Habille-toi bien, ne t'habille pas trop comme une sauvage ou tout ça. On a tellement été ne fais pas que le jour où ils ont ouvert la porte à tout ce qui était BLM et systematic racism et tout ça, ça a été la folie quoi, parce qu'on a tellement été serré à la gorge que tout d'un coup on nous desserre la gorge, ben on crie quoi. Et bon, les gens essaient, on essaie de vous aider, mais vous nous criez dessus. Hein. Donc, c'est ce que je dirais moi en tant que mère, c'est créer un environnement divers autour de l'enfant.
Ouais. Et est-ce que tu trouves que la Californie, parce qu'on va parler que de cet état-là aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est un état que tu recommanderais pour voilà pour une famille de couleur?
Mmh. Oui. Oui, pour moi, la Californie, c'est, il y a, je pense même pas à un autre état.
Parce que t'es pas allée à New York.
J'ai beaucoup visité New York, la Floride, Wyoming, Chicago.
Quand même différent là. Hein.
Non.
On descend.
Ouais,
là.
J'ai visité. Je suis pas allée dans le South. J'évite. Le sud des États-Unis, j'évite parce que bon, c'est là qu'il y a pas mal de caca, donc j'évite. Mais et aussi qu'en tant que parent et famille qui voyage, c'est un des trucs qu'on fait. On regarde s'il y a des trucs racistes. Mais la Californie, pour moi, c'est l'état que je recommanderais pour s'installer si on veut s'installer en tant que famille aux États-Unis. On est quand même dans une bulle où les gens sont prêts au changement. J'ai moins peur aux États-Unis que si j'étais, par exemple, au Texas ou en Floride.
Et encore, le Texas, ça devient un peu bleu, hein. Je ne sais pas si tu avais remarqué,
oui,
mais...
Oui,
Parce que je pense que tous les gens de Californie sont en train de venir s'installer au Texas, notamment à Austin. Mais Floride, ils m'ont tellement déçue, tous les retraités blancs qui... Bref.
Et en plus, c'est là que toute la famille Trump est partie. Donc, tu sais ce que ça veut dire.
Après, ça reste un état du Sud. Hein, tu vois, tu me parlais du South. Enfin, ça reste un South State, quoi. Donc, faut pas oublier ça. Hein. C'est malheureux.
J'étais à Miami au mois de mars 2020, juste avant le Covid. J'étais à Miami. J'ai jamais eu de problème à Miami, mais je sais comment c'est parce que j'ai énormément d'amis qui sont là-bas ou certains se sont installés là-bas et ils ont dit bon bah on se rejoint quelque part d'autre que la Floride hein. Et ouais on se rejoint à New York ou quelque part d'autre parce que ouais non.
Est-ce que du coup tu aurais des conseils à offrir à des parents notamment de familles recomposées mixtes, c'est-à-dire multiculturelles?
Je crois que le numéro un, c'est communication avec tous les parents, même si des fois les personnalités sont complètement différentes, et il faut toujours garder son ego à part pour pouvoir, parce qu'il y a tellement de beauté à avoir un enfant métis avec une famille recomposée, c'est magique, et c'est une opportunité en tant qu'adulte d'offrir à cet enfant tellement de culture. Que si vous mettez ça en numéro un, avant votre ego, avant les personnalités et les c'est une opportunité magnifique. Donc moi je dirais première, c'est la communication. Tous les quelques mois ou peu importe comment ça vous arrange, avoir maintenant ça va être des Zoom meetings, mais des meetings en tant que famille pour voir ok. Est-ce que ça va avec Maya? Où est-ce qu'on en est avec Maya? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose? Parce que souvent, il y aura un problème avec Maya dans une maison, mais il n'y aura pas un problème dans l'autre maison. Donc, des fois, oui. J'arrive à aider sa maman ou sa maman arrive à m'aider parce qu'on communique et on communique ouvertement, sans ego, sans oui, mais parce que pour nous, notre priorité numéro un, c'est l'enfant. Respecter toutes les cultures. Donc, je respecte la culture latina de Maya, parce que de sa maman, parce que ça fait partie de l'enfant. Mm-hmm. Et parce qu'un jour, l'enfant va poser des questions. Et si vous déniez la culture, un bout de la culture de l'enfant, ils vont poser des questions, hein, en tant qu'adulte. Pourquoi je ne sais pas
ces questions-là. Pourquoi je dois passer à table, maman? Pourquoi?
Pourquoi on passe tant de temps à table?
3 heures à table, j'en peux plus.
J'en ai marre de la choucroute. Pourquoi? Donc il faut vraiment respecter la maman de Maya. Elle veut vraiment que j'inculque la culture française à Maya parce que elle adore la France. Au niveau de nous, c'est tout ce qui est latino, on approuve. Et en plus, ils ont un petit peu de juifs aussi dans la famille. Donc, tous les vendredis, ils ont leur Shabbat dinner. Donc, on sait que les vendredis soirs, on n'aura pas Maya. Ou si on l'a, c'est exceptionnel. Et même des fois, on lui dit à Maya, est-ce que le vendredi soir, quand tu es avec nous, tu veux faire un Shabbat dinner? Nous, ça ne nous dérange pas, tu vois. Donc, c'est vraiment le respect de toutes les cultures qui vont avec l'enfant. Ouais. Ça serait mon deuxième truc. Communication, respect des cultures. Et
tu n'es pas obligé d'en faire un troisième. Hein. Ça me paraît pas mal.
J'essaie de trouver un troisième, mais je ne pense pas qu'il y aura un troisième. Je crois que c'est les deux plus importants. Le reste, après, c'est important. Non, le reste, ce n'est pas vraiment… Donc, ouais, ces deux-là, je pense que c'est les plus importants.
Ouais. Non, bah écoute, Myriam, en tout cas, moi, je te remercie énormément de ton témoignage.
Merci de m'avoir eu sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Génial.
Non, vraiment, merci beaucoup. Et j'espère que ça aidera des familles, autres que caucasiennes à se décider ou non à venir s'installer aux États-Unis ou tout du moins en Californie.
Oui.
Ouais. Donc, merci beaucoup.
Génial. Oh, pas de problème.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !